France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 5, 1966, le pari du général de Gaulle.
Votre destin et le nôtre sont semblables et conjugués. Soviétiques et français, nous pouvons nous donner la main. Dans le monde et à l'époque d'aujourd'hui, nos deux pays ont à faire ensemble beaucoup de choses de premier ordre. Or, ces choses-là sont non point du tout destructrices ou menaçantes, mais constructives et pacifiques. Général de Gaulle, discours à Moscou, le 30 juin 1966. On poursuit notre conversation avec l'historienne spécialiste de la Russie et de l'URSS, Sabine Dulin. Les gens qui nous écoutent sont peut-être étonnés d'entendre le général de Gaulle dans ma voix tendre la main à Moscou en 1966, sachant que après-guerre, on s'était arrêté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'épisode précédent, en tout cas dans la Seconde Guerre mondiale, le gaullisme et le communisme sont deux revers d'une médaille qui n'arrive pas à s'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 66, le général de Gaulle tende la main ?
En fait, je suis pas sûre que ce soit totalement contradictoire, le gaullisme et le communisme. Disons que ce sont les deux forces de la résistance, déjà.
Ça, c'est vrai. Et qui vont gouverner ensemble quelques mois après la guerre.
Voilà. D'ailleurs, de Gaulle, la première fois qu'il va en Russie, c'est en 44, pour signer une alliance entre l'Union soviétique et la France libre. Donc, en fait, l'effet Stalingrad, le fait que la grande guerre patriotique, du point de vue soviétique, a débouché sur la victoire contre le nazisme, c'est un ciment très fort dans la vie politique française. Et dans cette perspective-là, même si de Gaulle est évidemment quelqu'un de droite et qui a une vision conservatrice de la société, ça n'empêche pas...
Et du capitalisme.
Mais ça n'empêche pas que sur un plan géopolitique et l'expérience de la Seconde Guerre mondiale fait qu'il y a quelque chose de similaire entre le communisme et le gaullisme. C'est la peur du revanchisme allemand.
Oui.
Le souvenir de la résistance.
Juste, je fais une note de bas de page là-dessus, sur la peur du revanchisme allemand. C'est aussi pour ça qu'ils seront ensemble pour torpiller, par exemple, une armée européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Là qu'on les retrouve ensemble, alors qu'en effet, on pourrait imaginer qu'ils ne voteraient jamais ensemble, et là-dessus, ils sont ensemble.
Tout à fait. Et du coup...
Et la haine des États-Unis aussi.
Et la haine des États-Unis.
Ou en tout cas, l'inquiétude envers les États-Unis.
Et l'idée d'éviter d'être un vassal des États-Unis, et donc la défense de la souveraineté nationale française. Et évidemment, le deuxième voyage de Gaulle en 1966 va complètement dans ce sens-là. De Gaulle vient de quitter le commandement unifié de l'OTAN. Il affirme la spécificité française au sein du bloc atlantique. Et du coup, il a besoin de l'Union soviétique dans ce contexte-là, d'autant que depuis la mort de Staline,
En 53, la déstalinisation, oui.
Voilà, la déstalinisation, la dénonciation par Khrouchtchev des crimes du stalinisme, et puis le début d'un dégel qui a lieu dans les années, la fin des années 50, fait qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et du coup, de Gaulle va développer cette idée d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural et va développer l'idée qu'il suffit de gratter un peu le communisme et on retrouve la Russie, et c'est ça qui nous intéresse. La Russie éternelle.
Comme la France éternelle. Une petite incise, là, vous avez évoqué les crimes du stalinisme. On ne peut pas les mettre de côté parce qu'ils vont aussi agiter le débat français et peut-être rendre un peu plus compliqué, en tout cas avant les années 60, ou avant le 20e congrès du PCUS qui va dénoncer les crimes staliniens, c'est l'affaire Kravchenko. On a quand même quelqu'un qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est un dissident et raconte la réalité du régime stalinien. Ça a dû quand même ébranler toute une partie, notamment des gaullistes, mais aussi des communistes français.
Alors, il faut bien voir que le Parti communiste français, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, est le premier parti de France.
Oui.
C'est vraiment un parti hyper important dans la vie politique.
Et il appartient, avec le Parti communiste italien, au Cominform, donc à l'ensemble, l'espèce de relation des partis communistes. Il y a les partis communistes français et italiens et tous ceux des démocraties populaires.
Voilà. Donc ce parti communiste qui est très puissant, mais qui a été évincé du gouvernement en 1947, justement dans une logique de guerre froide, donc on ne veut plus avoir les communistes au pouvoir parce qu'on est dans une logique de lancement de la guerre froide et de volonté de créer donc une alliance atlantique contre l'Union soviétique. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que il y a un certain nombre de transfuges. Donc Kravchenko, c'est un transfuge, c'est-à-dire que c'est un ancien haut fonctionnaire soviétique qui quitte le bloc soviétique, qui donc franchit le rideau de fer et qui écrit un ouvrage qui s'appelle « J'ai choisi la liberté » où il raconte un certain nombre de choses sur le goulag, les purges, donc le goulag, les camps, hein, les camps d'internement en Union soviétique, les purges, le système de répression, etc. Évidemment, écrire ça en 1947, ça reste là aussi, c'est un peu comme Gide en 1937, c'est évidemment décrié par toute une partie de l'opinion publique qui considère que l'Union soviétique vient de gagner contre le fascisme. Il y a toujours l'effet Stalingrad. À l'époque, il y a les grandes campagnes pour la paix, le mouvement de Stockholm, il y a Picasso qui dessine la colombe de la paix.
Aragon.
Voilà, tous les grands intellectuels et les artistes, etc., sont du côté de l'antifascisme et du communisme. Donc, c'est très compliqué d'écrire ça. Et tout de suite, on pose la suspicion sur le témoignage de Kravchenko, et notamment ça va être le rôle des Lettres françaises, qui est un journal littéraire pro-communiste, et qui va donc dénoncer en fait un faux.
Voilà, un agent américain.
Kravchenko, qui effectivement serait payé par la CIA pour raconter tout ça. Alors même qu'il a, lors du procès qui a lieu contre les Lettres françaises, Kravchenko fait témoigner à la barre Margareta Buber-Neumann, qui est une femme anciennement communiste qui a été enfermée dans les camps de concentration nazis, puis ensuite au goulag. Mais en fait,
ça n'a aucun effet.
Le fait de vouloir mettre sur le même plan
ce qu'avait fait
les
Gide.
Camps nazis et les camps soviétiques,
ce qu'avait fait Gide,
ce qu'avait commencé à faire Gide, c'est inentendable à l'époque. C'est encore trop tôt pour que l'opinion publique puisse accepter cela. Et donc finalement, Kravchenko gagne son procès, mais sur un plan de l'opinion publique, il l'a perdu.
Il l'a perdu. Et en revanche, 10 ans plus tard, à Budapest en 1956, quand un mouvement populaire, révolutionnaire, hongrois est écrasé par les chars du pacte de Varsovie, donc les chars russes en réalité, là ça va commencer à bouger un peu, on parlait d'Aragon il y a un instant, ça va bouger chez les compagnons de route, chez les intellectuels français, qui regardaient de manière, avec une passion aveuglée peut-être, l'expérience soviétique.
Oui, alors ça va encore plus être le cas
à Prague.
En 1968 avec le printemps de Prague. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler la gauche antitotalitaire. C'est-à-dire que jusque-là, le totalitarisme était une idée de droite. C'était l'idée de dénoncer le camp d'en face dans le cadre de la guerre froide.
Raymond Aron.
Voilà.
Si on peut en parler d'un intellectuel. Ouais.
Voilà. Bon. Après, c'est peut-être plus compliqué que ça. Oui. Est-ce qu'il est bon?
Oui. Est-ce qu'il est de droite?
Ça, c'est droite, notre... gauche. Oui. C'est toujours un peu compliqué. Mais
non, mais il était, voilà, écrit au Figaro.
En tout cas, le fait de 1968, le printemps de Prague, et ensuite l'affaire de Solidarité en 1980. Donc là, lorsque il va y avoir le coup d'État de Jaruzelski contre ce syndicat ouvrier après les grandes grèves en Pologne. Tout ça, ça va entraîner le développement d'une gauche qui dorénavant dénonce le système soviétique et prend acte de l'existence du goulag. Et évidemment, on a l'archipel du goulag de Solzhenitsyn.
Un mot là-dessus, parce que ce qui est intéressant avec Solzhenitsyn, c'est qu'il demande et qu'il fait publier son texte, contrairement à Kravchenko, qui était d'abord un texte en anglais, puis traduit en français. C'est la traduction française qui va créer le débat en France. Solzhenitsyn demande que l'archipel du Goulag sorte d'abord en France.
Oui,
pourquoi?
Il sortira d'abord en russe, d'ailleurs.
D'abord en russe, et puis
et ensuite
en Occident,
traduit en français.
En français, en 1974, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est
oui.
Important. Il veut d'abord que ce soit en français.
Mais alors après, Solzhenitsyn, bon, bien sûr, l'archipel du Goulag, ça, on connaît, il y a un très bon documentaire sur comment l'archipel du Goulag est sorti de Russie, etc. Et comment, dans un premier temps, on se demande, mais c'est où sur une carte l'archipel? Parce qu'on croit que c'est un archipel.
Ah oui, on est loin.
Donc, c'est un peu une découverte pour beaucoup de gens, l'existence de cet univers concentrationnaire en Union soviétique. Après, la personnalité de Solzhenitsyn ne fait pas l'unanimité en France, parce que c'est quand même un orthodoxe très conservateur et très traditionnaliste. Donc, souvent, on préfère des gens comme Sakharov, qui sont plus occidentalo-compatibles, on va dire. En tout cas, C'est vrai qu'il y a une montée en puissance de la dénonciation du régime soviétique, alors même que lorsque, si on revient à De Gaulle en 66, lorsque De Gaulle part en Russie, lui, il veut donc construire une relation de paix et de détente avec des intérêts économiques et géopolitiques avec la Russie, mais il a quand même dans sa poche une liste de tous ceux qui n'ont pas obtenu de visa pour venir en France, notamment beaucoup d'Arméniens qui ont de la famille en France et qui demandent le droit de partir et qui n'obtiennent pas le droit de partir de Russie. Donc, De Gaulle fait des grandes déclarations d'amitié avec la Russie, mais il y a quand même son ministre des Affaires étrangères, Couve de Mourville, qui lui avait glissé la liste de tous ceux à qui on avait refusé les visas, des droits de sortie, en fait, de l'URSS. Il va donc plaider la liberté de circulation, qui est une liberté qui n'est pas appliquée en URSS à l'époque et qui sera une des demandes de la conférence de Helsinki en 1975.
Oui, donc, dans les mots de De Gaulle, il y a un sous-texte qui n'est pas un alignement sur l'URSS, il n'est pas devenu communiste, il n'est pas devenu soviétiste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'ailleurs, mais il y a un intérêt géopolitique, mais derrière des questions qui sont peut-être qu'on ne peut pas résoudre et qui ne sont pas résolues d'ailleurs entre la France
et d'ailleurs toute la détente par la suite, parce que Pompidou ira aussi beaucoup en Russie, en URSS, et Brejnev viendra en France. En fait, pendant toutes ces années-là, l'idée c'est que plus on développe des relations, plus ça va miner de l'intérieur le système et on va aller vers une convergence en fait.
Est-ce que c'est pour ça qu'on est systèmes. Est-ce que c'est pour ça qu'en la France, peut-être d'ailleurs plus que les autres pays, va être totalement sous le charme et fasciné par Gorbatchev. Dans les années 80, la Gorbimania, comme on l'appelait à l'époque, s'empare de la presse française, de la vie politique française. Qu'est-ce que ça racontait, ça ?
Oui, alors, peut-être avant, je voudrais juste dire un mot de ce que les Russes voient de la France.
Oui, c'est vrai, n'oublions pas ça.
Bon, alors déjà, De Gaulle a un succès fou. Il y a 1 million de moscovites qui regardent l'arrivée de De Gaulle de l'aéroport jusqu'au Kremlin.
Ils ne sont pas obligés ?
Non.
D'accord.
Non. Non, il y a un vrai intérêt, d'autant que depuis 1955, par exemple, le cinéma français fait un tabac, puisque avec le dégel culturel après la mort de Staline, il y a des semaines du film français. Donc par exemple, Gérard Philippe est absolument adoré en Russie. Et dans les années 60, on a quand même Charles Aznavour, Mireille Mathieu, qui font des tournées mais triomphales en URSS. Et ça reste l'image de la France aujourd'hui encore chez les Russes. C'est Mireille Mathieu, Charles Aznavour, puis il y a évidemment Pierre Richard et son film Le Grand Blond à la chaussure noire.
Ils adorent ça ?
C'est un succès. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose comme 30 millions d'entrées immédiatement quand il est sorti en URSS.
On notera que ce n'est ni des chanteurs, quoique Aznavour, mais ni des films politiques.
Non plus.
Non plus.
Bien sûr, c'est plutôt des comédies quand même.
Oui. Donc, c'est pas Costa-Gavras, quoi.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une connaissance un petit peu d'une forme de culture populaire française en Union soviétique.
Et inversement ?
Alors inversement, les productions de l'époque soviétique, qui sont pourtant très bonnes dans les années 60, il y a des très bons films, il y a presque une sorte de nouvelle vague un peu à la française, ça dépasse pas du tout le rideau de fer, alors qu'il y a d'excellentes comédies. L'ironie du destin, par exemple, c'est une super comédie.
Ah ben voilà, on cherchera. Un mot sur la Gorbimania, parce que j'y tiens pour terminer cet épisode.
La Gorbimania, bien sûr, c'est sans doute, peut-être pour certaines personnes, le succès finalement de cette multiplication des échanges qui a grignoté de l'intérieur le verre était dans le fruit, disons, et donc ça a pu aider. D'ailleurs, Chirac, comme Thatcher, est en Russie en 87.
Oui.
Et il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc oui, il y a sans aucun doute l'idée qu'on va peut-être pouvoir finalement réformer ce système pour l'amener vers un système un peu de socialisme à l'occidental.
Jacques Chirac déclara en 1997, donc c'est au moment d'Eltsine, avant même l'arrivée de Poutine, « Oui, la relation entre la Russie et la France a quelque chose d'unique. Elle procède de l'attirance et de la reconnaissance réciproque de deux peuples épris d'absolu, de beauté et de vérité, voilà qui synthétise pas mal de choses qu'on s'est racontées ensemble, mais qui vont se heurter à l'arrivée de Vladimir Poutine et plus encore aux années les plus récentes, qu'on peut qualifier peut-être de celle de la rupture entre nos deux pays. Ce sera l'objet du dernier épisode de notre conversation. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.